La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
Le monde du jeu vidéo n'est pas un monde à part. De plus en plus de gens sont en train de le reconnaître dans la sphère publique, ne pouvant plus cacher le succès de sa pratique toute génération confondue, mais aussi en voyant le succès des streamers et des streameuses vivantes du fait de jouer aux jeux vidéo en public, que ce soit sur Twitch pour une majorité d'entre elles et eux, comme sur Kick pour les gens qui veulent montrer leur partie génitale. C'est comme ça que je m'imagine, c'est Kick en tout cas. En tout cas, pendant des années, on avait l'impression que le jeu vidéo c'était un loisir, donc qu'il y avait comme quelque chose de scandaleux à ce que des Squeezie, des Gotaga, des gagnent leur vie à jouer à Fall Guys ou à Mario Kart, alors que ce sont des jeux que je précise apprécier énormément. Alors qu'on regarde bien les gens qui font du sport depuis aussi longtemps qu'il y a des gradins dans des stades, alors que nous on reste sur notre canapé, dans les deux cas c'est la même chose, on pourra en faire nous-mêmes, et pourtant on ne s'est jamais plaint pour le sport. Pourquoi pour le jeu vidéo alors? Moi-même, j'étais gêné par cette réflexion-là pendant un moment. En plus, s'agissant spécifiquement de Twitch, savoir que des gens de gauche, dont des gens qui se disent de gauche, vivent d'abonnements dont une partie est reversée à Twitch, donc aux dividendes d'Amazon, donc à Jeff Bezos, ça me poser un petit peu question quoi. Mais au final, avec le temps, je me suis quand même intéressé à cette pratique, sans jamais donner un seul centime d'euro non plus à Twitch, je m'y suis quand même intéressé et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un monde comme les autres. Et dans le genre normalisation du jeu vidéo, et là je dézoome du streaming pour arriver au jeu vidéo normalement, il y a un truc qui se fait en France assez régulièrement, notamment quand il y a des réformes des retraites, il y a une grève qui est organisée par le syndicat des jeux vidéo demain. Preuve en est que le jeu vidéo n'est pas un monde à part, que les travailleuses vont le démontrer demain pendant une grève, qui plus est en France. Je pense qu'il faut arrêter de mettre ces gens à part. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bon réveil aux personnes qui ont pris une sacrée cuite hier soir. Au sommaire de cette matinale de 19h, on reste dans l'univers du streaming. On va parler du rôle des plateformes de streaming dans les mutations et les formes de philanthropie. On en parle dans un court instant avec Arthur Gauthier, directeur de la chaire de philanthropie à l'ESSEC. Dans un instant, une émission qui sera suivie ensuite du Zoom, où on va recevoir l'artiste Asfar Shamsi, qui a sorti son EP Le dilemme du hérisson et qui sortira un clip demain. On en parlera pendant le Zoom avec Héloïse. Entre temps, vous écouterez évidemment un flash info qui nous sera concocté par Delila et bien sûr les chroniques de et qui viendront ponctuer cette émission. Vous écoutez Radio Campus Paris, on est en direct jusqu'à 20h.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le 12 février 2025, ce qui fait que nous sommes à 15 jours du Spidon, un événement caritatif, j'arriverai jamais à le dire ça, diffusé sur Twitch, à savoir la chaîne de Mister MV plus précisément. Un événement long de 75 heures où les dons donnés par les viewers et les vieweuses seront reversés à l'association Médecins du Monde. C'est l'événement caritatif qui arrive, j'ai réussi à le dire cette fois, dans le plus proche, mais évidemment le nombre d'événements caritatifs sont légion sur ce. Mais on va en parler avec notre invité Arthur Gauthier. Bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais en introduction, vous êtes directeur de la chaire de philanthropie à l'ESSEC. Est-ce que vous connaissiez le Spidon avant sa tenue dans quelques jours?
Alors vous m'avez appris la tenue de cet événement.
Ah, vous avez balancé les coulisses.
Mais c'est pas le seul, effectivement. Ça me fait bien sûr penser aux Z-Event, à Stream for Humanity il y a quelques temps. Donc ça fait partie, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on observe depuis quelques années. De ces formes en fait d'événements liés au stream pour donner à des associations caritatives. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ce qui va se passer dans quelques jours.
Est-ce que vous parliez d'événements, évidemment au sens conjoncturel de ces événements-là, c'est souvent des week-ends, c'est souvent des moments sur un temps court où on va pouvoir recueillir énormément de dons à destination des associations, mais le côté événementiel de ces événements, c'est aussi dans la sphère publique où on a l'impression qu'émergeait quelque chose de complètement nouveau avec notamment le The Event, on va pouvoir parler spécifiquement de ces événements. Est-ce que c'est un événement dans la sphère publique d'avoir des événements de cette ampleur pour collecter des dons pour des associations, ou est-ce que c'est une mutation de choses qui existaient déjà
Il y a des années.
En fait, on peut voir le don sur deux temporalités. Il y a des gens qui donnent régulièrement à des associations, à tous les mois, pour ceux qui ont des prélèvements automatiques. Il y a des gens qui donnent aux fêtes de fin d'année. Et ça, c'est très bien pour les associations parce que c'est du don régulier. Ça permet en fait d'avoir une forme de financement qui permette de faire les opérations de l'association. Mais il y a toujours eu en fait des événements de collecte autour de lancement de grands projets. Je pense par exemple à la création de l'Institut Pasteur à la fin du 19e siècle par le médecin scientifique Pasteur lui-même, Louis Pasteur. Il a lancé une grande campagne en fait de collecte auprès des Français, mais aussi en mobilisant les médias, des donateurs internationaux pour créer son institut et pouvoir faire les travaux et lancer l'activité. Donc ça, c'est un exemple finalement de mobilisation autour d'un événement avec une date de fin. C'est le mode campagne, hein, comme on dit, campagne de collecte. Et ça, c'est effectivement une modalité très intéressante parce que ça permet de soulever l'intérêt de plein de gens. Il y a généralement une date limite, un objectif de collecte. Et voilà, quand on le dépasse, on est content. Et c'est clair que ça crée aussi des nouvelles façons de collecter de l'argent pour des structures associatives.
Et donc, évidemment, ces événements, on le précise, ça rentre dans une catégorie, on va dire, de la sphère publique qui est la philanthropie d'une manière générale.
Oui.
Donc, le premier événement que vous recensez, ça date de la fin du 19e siècle avec l'Institut Pasteur. Mais ça s'inscrit sur le temps long. À quel moment de l'histoire de la philanthropie ça fait? Combien de temps qu'on répertorie l'existence de la philanthropie aussi dans le monde ?
Ah, ça, c'est une vaste question.
C'est une vaste question.
Non, mais des traces finalement de générosité pour la chose publique, ça remonte à l'Antiquité, hein, avec l'organisation des premiers jeux du cirque, mais aussi le financement des artistes, des poètes par les premiers mécènes. Mais ce qui me semble intéressant dans votre question, c'est de voir où s'inscrivent finalement ces événements de stream aujourd'hui dans la grande lignée de cet engagement philanthropique. Je trouve que on assiste récemment à une sorte de gamification du don. On arrive à rendre le don aussi peut-être plus ludique, plus ancré aussi dans le quotidien. C'est vrai que donner en regardant un tournoi de jeux vidéo, c'est quelque chose qui sort un peu des pratiques habituelles du don, où généralement il faut faire la démarche pour se dire je vais donner à telle date et on est sursollicité par des mailings, par des occasions de donner. Mais là, le fait de l'ancrer dans du quotidien, dans du loisir, c'est assez nouveau. On voit ça émerger depuis, je dirais, une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années, donc c'est bien avant les premiers événements, notamment les événements caritatifs sur Twitch. Il y a 15 ans, c'était quoi du coup
On a vu apparaître, alors j'ai 15 ans, c'est peut-être plus 10 ans, mais on a vu apparaître les premières applis, par exemple, qui proposent aux personnes de courir, faire leur jogging et à chaque kilomètre parcouru, ça reverse automatiquement des dons à une association et le don est sponsorisé par exemple par des entreprises partenaires de l'appli. Et donc on a vu apparaître ces mécanismes de mettre du don dans le quotidien. Je pense aussi à l'arrondi en caisse que vous avez peut-être déjà pratiqué si vous allez faire vos courses Monoprix,
oui,
à Franprix.
Qui existe, oui.
L'arrondi en caisse, c'est aussi une façon de mettre du don dans le quotidien au moment de payer à la caisse. Ça, c'est une invention qui a notamment été introduite par Microdon en France. Je crois que c'était en 2009-2010 que la structure s'est créée. Donc vous voyez, il y a quand même des nouvelles façons de mettre du don partout dans le quotidien. Qui va permettre à des gens qui ne donnent pas habituellement d'avoir un premier contact avec on peut donner, on peut soutenir une bonne cause et c'est pas si compliqué que ça et ça coûte pas si cher finalement de faire une bonne action.
Et donc dans gamification, c'est un terme qui évoque le jeu, le ludique, rendre ludique un don, ça aussi c'est quelque chose qui date d'avant parce que là vous parliez de faire rentrer les dons dans le quotidien, mais c'est pas forcément ludique de taper d'appuyer sur l'arrondi du prix pour faire un don, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres vraiment d'autres formes ludiques qui précèdent l'existence d'événements sur Twitch? Il me semble que le Ice Bucket Challenge, c'était quelque chose
fait.
Oui, c'est ça, c'était caritatif à l'époque.
Ouais, tout à fait.
C'était déjà une manière de rendre amusante.
Exactement.
Je vois pas ce qu'il y a d'amusant, le fait de se foutre des glaçons sur la tronche, mais bon, ça c'est...
Apparemment, ça amusait beaucoup de personnes.
Beaucoup de gens, mais ça rentrait dans ces choses-là aussi.
Oui, c'est ça.
C'est Internet qui a permis cette émergence-là.
Oui, possiblement. En fait, c'est les médias. À chaque nouvelle génération de médias, il y a des nouvelles formes de dons qui émergent. On peut penser aussi au Téléthon dans les années 80, qui a été lancé par l'AFM, l'Association française de lutte contre l'hémiopathie, et qui, justement, ont utilisé le média télé pour organiser une grande campagne nationale de dons avec, vous savez, le petit le compteur ouais. Voilà, qui affiche le nombre de dons. Et donc, rien que la présence d'un compteur, je trouve que c'est de la gamification. C'est-à-dire que
ça donne voit où on en est.
On voit où on en est, il y a un objectif qui peut être annoncé par les animateurs, les organisateurs de la campagne, et plus on s'approche de l'objectif, plus on peut encourager les Français à donner. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans le crowdfunding, dans le financement participatif, avec des campagnes avec un objectif de collecte, donc par exemple, j'en sais rien, 100 000 euros, et une date de fin, voilà, à la fin du mois. Et donc, quand vous avez ce type de mécanique qui est mise en place, eh bien, ça donne plus envie de donner que si vous dites ben, vous pouvez donner un peu ce que vous voulez, s'il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de limite dans le temps. Vous voyez, c'est aussi ça qui rend le don peut-être plus attirant pour des personnes qui n'ont pas forcément une connaissance forte du milieu associatif et qui ne sont pas des donateurs réguliers déjà.
Et donc cette gamification a trouvé, on va dire, un terreau extrêmement fertile avec le caritatif sur Twitch. Donc là, c'est là que vous êtes intéressé à l'ESSEC aux The Event. Hein? Alors il y a des gens qui disent The Event, il y a des gens qui disent The Event. Prononcez-le comme vous voulez. Il y a pas de pour les gens qui nous écoutent, faites comme vous voulez. Est-ce que c'est le paroxysme, on va dire, de la gamification de ce genre de pratique.
Bah, ce qui est intéressant avec le Z-Event, c'est que, bon, je crois que ça s'est lancé...
Vous avez étudié, je précise, que vous avez étudié le Z-Event de 2018.
Ouais, on a fait un cas, en fait, pédagogique sur MSF, donc Médecins Sans Frontières, qui a été sollicité un jour, un beau matin, par mail, par les organisateurs du Z-Event, qui n'étaient pas du tout connus à l'époque. Il y avait eu, je crois, une ou deux éditions avant, mais c'était encore confidentiel. Et la question s'était posée, bon, bah, on a ces inconnus qui nous écrivent, ils s'appellent The Rator et Dash, on les connaît pas trop, ils nous disent que tout est financé clé en main et qu'on a simplement à attendre que le week-end se passe et à relayer l'événement. Et c'était assez nouveau pour MSF et il y a eu des grands débats en interne de l'association et finalement ils ont dit ok, on y va.
Les débats tournaient autour de quel...
Il y avait un débat autour de... vous savez, MSF est impliqué sur des pays où il y a des conflits violents, des guerres. Et un certain nombre... Il y avait une image, une connotation négative des jeux vidéo pour certains administrateurs d'MSF, parce que c'était pour certains des jeux vidéo violents. Pensez à GTA, pensez aux jeux de guerre. Et donc, il y avait une résistance sur la connotation violente des jeux et le fait que ça ne soit pas aligné avec la mission de l'association. Et puis après, il y avait des résistances du genre « Mais oui, mais est-ce que ça ne va pas choquer nos donateurs un peu anciens et habitués qui vont se dire « Mais en fait, qu'est-ce qu'on vient faire on vient se corrompre dans un événement du jeu vidéo ?» Mais malgré tout, je dirais que l'opinion qui est devenue majoritaire chez MSF, c'était « Allez, il faut innover, on essaye. » De toute façon, ça ne va pas nous coûter grand-chose financièrement. Et puis, ils ont l'air sérieux, motivés. Et donc, voilà, ils y sont allés. Et ça a été un gros succès au niveau collecte. Je crois qu'ils ont collecté à l'époque 1 million d'euros en 3 jours. C'était le record. Maintenant, c'est passé. Je crois que tous les ans, on plafonne un peu. On est à 10 millions d'euros, je crois, maintenant. Pour
ils ont pas, 2024, ils n'ont pas battu le record, mais ils ont dépassé les 10 millions.
Ouais, ça fait 2-3 éditions qu'on est à peu près à 10-11 millions, ce qui est vraiment génial hein, en quelques jours. Et donc, ça a été un impact média de dingue. En fait, on avait parlé donc, de Médecins Sans Frontières, de ses actions, de manière incroyable dans les jours qui ont suivi en fait, l'événement. Donc déjà, rien qu'en termes de visibilité média, ça a été un gros succès pour MSF. Ils ont effectivement reçu 1 million d'euros avec très peu de frais, puisqu'en fait, tout a été pris en charge par Z-Event. Et en plus, c'était un truc très simple avec une cagnotte PayPal, je crois. Et donc, ça a été super. 36 000 donateurs différents qui ont donné 25 euros en moyenne. Et en fait, les seules limites du modèle, ça a été que ça a été difficile de fidéliser ces donateurs. Mmh. En fait, ces événements-là de stream, c'est génial pour faire du one-shot, mais après, l'année d'après, ben, Z-Event ou autre, ils vont bosser avec une autre association. Et donc MSF, ils vont bénéficier qu'une fois du Z-Event, et ensuite, c'est pas facile pour eux de collecter les datas sur des adresses mail uniquement pour ensuite convertir ces donateurs en donateurs réguliers.
Ça, c'est une question qui occupe aussi les associations qui reçoivent.
Exactement.
D'accord. On va pouvoir parler plus longuement de ces spécificités-là et des événements caritatifs d'une manière générale. D'ici là, vous écoutez la matinale de 19h, on va écouter Compromat. I surrender.
Et c'était I Surrender de Compromat sur Radio Campus Paris, il est 19h20.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Arthur Gauthier au micro de Radio Campus Paris, directeur de la chaire de la philanthropie à l'ESSEC. On parlait juste avant la pause musicale de la gamification des événements caritatifs, en parlant notamment du fameux The Event, où la gamification a trouvé une espèce de paroxysme avec des dons qui pouvaient être spécifiés à un jeu, des choses comme ça. Enfin, il y a eu énormément de jeux pendant le The Event, que ce soit dans votre cadre 2018 ou même ces dernières années, où par exemple le streamer Étoile faisait une espèce de question pour un champion en direct et faire des dons et atteindre un certain palier pour les joueurs et les joueuses de ce question pour un streamer, ça leur débloquer des jokers, des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de micro événements, de micro manières de donner pour faire gagner des bonus aux joueurs, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça
retire la substance aussi de la nature du don, quoi. Est-ce que ça, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de dire, regardez, on fait donner aux gens pour qu'ils aient des jokers dans un quiz, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça dépolitise les sujets, enfin, est-ce que vous avez saisi quelque chose aussi dans vos études?
Ouais, je vois ce que vous voulez dire. En fait, le fait de rendre le don fun, ludique et d'y associer des récompenses, par exemple. Voilà ce que vous évoquez sur des bonus. Il y a aussi, en fait, quand on voit dans le financement participatif, il y a des campagnes d'appel aux dons, hein, pour des associations où, en fonction du palier qu'on donne, on a en fait des contreparties qui peuvent être symboliques pour certaines, un petit message de remerciement des organisateurs. Mais dans certains cas, il y a une forme de cadeau, de visite exclusive du site en question, par exemple. Et donc tout ça, ça peut éventuellement associer le don à des récompenses pour le donateur. Et ça, la recherche en psychologie sociale notamment a montré que ça peut être très utile à court terme pour faire venir notamment des gens qui n'ont jamais donné, mais que c'est pas génial si on veut fidéliser les gens sur le long terme. En fait, si les gens donnent à long terme de manière répétée, c'est parce qu'ils y voient un intérêt intrinsèque, en fait. C'est pas les récompenses qui vont les faire rester. S'ils restent donateurs, c'est parce qu'ils croient à la cause, parce qu'ils ont une vraie confiance envers l'organisation qu'ils soutiennent. Et ce qui est difficile, je trouve, c'est d'attirer les gens avec des bonus et des cadeaux, et ensuite de les faire adhérer pleinement à la cause. Mais c'est un vrai challenge auquel s'attaquent pas mal d'associations. Ouais.
Et c'est pour ça, c'est un stade qui est encore à franchir aussi pour ces événements-là, notamment pour le The Event, puisque c'est l'exemple un petit peu central. Il y a Zerator, organisateurs du mouvement, qui a beaucoup tenu, notamment sur l'édition 2024, à ce que les streamers et les streameuses accueille des membres d'associations dans leur stream pour sensibiliser aux questions. Ouais. Est-ce qu'il y a encore est-ce que le travail est encore possible aussi pour ces événements-là, quoi,
enfin, ça va dans le bon sens. En fait, je pense que les organisateurs des Z-Events, ils ont été eux-mêmes surpris d'avoir collecté autant dans les premières éditions. C'était exponentiel, hein. C'était à chaque fois multiplié par 5 ou au moins par 2 à chaque année. En fait, je trouve ça bien, moi, d'essayer de montrer aux viewers, aux futurs donateurs, qu'une association, c'est pas seulement une belle idée, c'est aussi des professionnels sur le terrain, des gens qui vont aider les populations les plus vulnérables. Et plus on peut donner du concret, montrer que l'argent sert à, par exemple, bâtir des hôpitaux ou à financer des programmes de vaccination de personnes vulnérables, eh bien ça peut aussi sensibiliser les gens qui sont là plutôt pour s'amuser, parce qu'ils suivent un streamer qu'ils aiment bien, pour découvrir, tiens, cette association fait vraiment du bon travail et j'ai envie de la découvrir. Et je pense que l'essai est transformé si... de simples curieux, les personnes deviennent des ambassadrices ou au moins des donatrices ou des bénévoles parfois pour ces assos. Donc tout ce qui peut rendre l'action de l'asso plus concrète, à mon avis, va vraiment dans le bon sens.
Et est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi à l'organisation de ce genre d'événements? Et là, ça dépasse les événements caritatifs sur Twitch, mais les événements philanthropiques, la philanthropie au général. Vous donniez l'exemple, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, mais vous parliez de construction d'hôpitaux ou de campagnes de vaccination. Le budget de la santé, c'est un budget qui fait énormément débat, depuis notamment la pandémie de Covid-19, et même après, ça a continué de poser question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite à déléguer à des donateurs privés, en plus des donateurs qui n'ont pas énormément d'argent non plus, quoi. Enfin, il y a énormément de dons à 1 euro dans ce genre de... Dans le The Event, ce genre de choses, il y a beaucoup de dons à 1 euro, des tout petits dons, parce que les gens n'ont pas les moyens de donner plus. Est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi à ce que la philanthropie se substitue à l'action publique?
Ouais, ça c'est un débat très important et qui n'a pas attendu les streams pour avoir lieu. Et effectivement... ça dépend vraiment des pays et des traditions d'État-providence, mais il est effectivement important de rappeler que les dons, la philanthropie ne peuvent pas tout et ne peuvent pas remplacer en fait l'action publique dans un grand nombre de domaines. Après, il faut voir aussi la répartition des rôles entre l'État et les acteurs privés. C'est vrai que Par exemple, on parlait de Médecins sans frontières, Médecins du monde, je crois aussi, dans le cadre du prochain événement. Là.
Pour le Spidon.
Ouais. Exactement. Ça, c'est des ONG humanitaires qui sont créées dans les années 70-80 et qui n'ont jamais dépendu de financement public. Ils ont toujours fait des choses avec des donateurs privés, généralement une multitude de petits donateurs, pour être le plus indépendant possible, pour ne pas devoir rendre des comptes à des États ou à des financeurs publics. Donc eux, finalement, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser la philanthropie pour finalement remplacer ce que faisait l'État, puisque les États ne faisaient rien sur, en tout cas, l'aide humanitaire indépendante telle que l'ont développée ces ONG. En revanche, sur d'autres sujets, l'hôpital, la culture, l'éducation, je pense que quand on voit ce qui se passe dans plein de pays du monde, et même dans l'histoire de France, en fait, souvent, la philanthropie, elle est là quand l'État ne fait rien ou quand l'État ne fait pas assez sur certains sujets. Par exemple, le logement social en France, bah, c'est au départ plutôt des initiatives privées parce que, à l'époque, l'État n'avait pas dans son rôle de financement du logement pour les plus pauvres. Et donc, c'est des initiatives un peu par-ci, par-là, privées, où on a essayé de fournir des logements aux personnes précaires. Et ça a ensuite été repris avec les HLM et toute la politique de logement social française. Et donc, il faut plutôt voir, je pense, la philanthropie comme soit quelque chose qui va initier de futures politiques publiques ou quelque chose qui va venir en complément de l'action de l'État, mais pas quelque chose qui va le remplacer, parce que je pense que c'est illusoire aussi de penser qu'on va pouvoir, quand on voit les budgets des ministères, oui, par rapport au budget total des dons en France, qui, je le rappelle, à peu près de 9 milliards d'euros, c'est rien par rapport au budget de l'éducation nationale, par exemple.
Donc 9 milliards d'euros, c'est le total des dons qui sont faits
ouais, à des en 2022 en France. Ouais.
En comptant aussi les dons des milliardaires, si je ne dis pas de bêtises, oui, enfin, en tout cas des personnes les plus riches et des investissements.
On arrive à 9 milliards d'euros de dons estimés, en tout cas, c'est une estimation prudente. On est peut-être à un peu plus, mais effectivement, c'est très important. C'est des financements qui vont à des causes utiles, des associations qui font du super boulot, mais il faut remettre ça aussi dans les ordres de grandeur. Et effectivement, je pense que l'action de l'État n'a pas à craindre la philanthropie. Il faut pas l'instrumentaliser non plus, mais il faut lui laisser sa place, en fait.
Ma question n'était pas tant sur est-ce que la philanthropie doit donner des craintes à l'État, mais plutôt est-ce que la philanthropie n'efface pas une certaine responsabilité de l'État certains sujets. L'exemple le plus récent, parmi les exemples les plus récents, il y a eu Streamer for Palestinians il y a quelques mois. L'avant-dernier The Event était autour du climat et avait provoqué beaucoup de remous, puisque Emmanuel Macron s'est donné à cœur joie de faire une vidéo de félicitations à chaque fois aux streamers pour les féliciter de toute la collecte qu'ils ont faite. Et ça a occasionné beaucoup sur place pendant le The Event, beaucoup de réactions extrêmement critiques envers le président de la République, dont des insultes aussi de la part de certains streamers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là qui se pose, notamment sur des enjeux très urgents comme le climat ou ce qui est en train de se passer qui justifie l'action de Médecins sans frontières, par exemple la limite de ce point de vue-là?
Ouais, je comprends. En fait, on peut pas d'un côté réduire les financements publics, ne pas payer correctement les infirmières, et d'un autre côté attendre que le privé fasse tout pour compenser ça. En fait, c'est une vision erronée, je pense, de penser que la philanthropie va remplacer ou doit remplacer les financements publics. En fait, je pense que c'est une impasse déjà en termes de montant, puisqu'on n'y arrivera pas. Et en plus, c'est un risque. Je pense que politiquement, c'est un mauvais calcul, parce que on peut pas dire maintenant vous allez on va couper vos subventions publiques et vous allez vous mettre à lever l'équivalent en dons. Le fundraising, c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande beaucoup de professionnalisme, et on peut pas décemment imaginer que toutes les associations ou les établissements publics vont miraculeusement collecter des dizaines de milliers d'euros ou des centaines du jour au lendemain. C'est un vrai travail, le fundraising, la collecte de fonds. Il faut faire attention aux fausses promesses.
Et est-ce que aussi ce genre de fundraising, donc parce que c'est le terme que vous utilisez, n'a pas aussi une certaine limite au niveau des dons pour les petites associations des événements comme le The Event, mais comme le font le Téléthon à la télévision et d'autres événements caritatifs ailleurs, vont se concentrer sur des associations qui ont les moyens matériels de recevoir plusieurs millions d'euros.
Enfin,
c'était notamment une des problématiques que soulevait le The Event, de dire bah voilà, Amnesty International, on peut organiser un The Event pour eux parce qu'ils vont pouvoir, recevoir ces 10 millions d'euros. Est-ce que ça occulte pas aussi la possibilité de faire des dons pour des petites associations et des petits endroits aussi ?
Mais ça existe déjà, en fait. C'est vrai que c'est moins visible, mais quand on voit comment fonctionne la plupart des associations en France, hein, on a beaucoup d'associations en France, hein, plus d'un million, et la plupart vivent en fait des cotisations de leurs membres et également de subventions publiques, de revenus d'activité et de quelques dons. En fait, il y a une hybridation des ressources très importante dans les associations, et ça, c'est ce qui fait fonctionner les 1,3 million d'associations qu'on a en France. Donc ça c'est un peu invisibilisé par les grands événements où on voit effectivement les grandes marques ou les grandes organisations. C'est assez concentré quand même en France, hein, le don. On voit que il y a à peu près une vingtaine d'organisations qui collectent peut-être 70% de tous les dons des particuliers. On a cité quelques-unes. Il y a les humanitaires, il y a ceux qui font de la recherche médicale, et celles qui sont sur la solidarité internationale. Et en effet, un des sujets, c'est comment est-ce qu'on peut aider les petites assos à équilibrer leur budget. Il y a une structure qui fait ça très bien, qui s'appelle Hello Asso, qui propose en fait des services, notamment pour la collecte de fonds, mais aussi pour créer une page un site internet, l'organisation d'événements. C'est des services qui sont gratuits pour les associations, et là le système assez malin, c'est que on peut payer en tant qu'utilisateur un pourboire pour que Hello Asso puisse continuer à se développer. Et ça, c'est des choses intéressantes qui concernent pas seulement les grandes ONG, mais je dirais quasiment toutes les assos qui composent tout notre tissu associatif en France.
Donc c'est un des moyens qui peuvent exister, en tout cas pour faire coexister toutes ces assos, quelle que soit leur taille. Merci beaucoup Arthur Gauthier d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes
professeur à l'ESSEC.
Aussi professeur à l'ESSEC et directeur de la chaire de philanthropie.
Exactement.
De l'ESSEC. Merci d'avoir été avec nous. 19h33, vous écoutez toujours la matinale de 19h. Et on continue de parler d'actualité avec le Flash Info, et on va parler de musique juste après ceci. C'était Space Song de Beach House sur Radio Campus Paris. Il est 19h38.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le reste de l'actualité sur Radio Campus Paris, c'est avec Delila. Bonsoir Delila.
Eh bien bonsoir. On commence ce Flash Info avec un regard sur les États-Unis. Donc après l'affaire du changement de nom du Golfe du Mexique auquel s'étaient pliés Apple et Google pour leur service de cartographie en ligne, ce dernier est aujourd'hui encore pointé du doigt en cause la suppression de son calendrier par défaut de plusieurs événements importants et commémoratifs, parmi lesquels le mois des fiertés, la journée du souvenir de l'Holocauste et le Black History Month. Si Google se défend de tout lien avec l'élection récente de Trump, argumentant que cette suppression se fait dans le cadre d'une refonte plus générale de son calendrier, il est difficile de ne pas y voir un virage idéologique, à l'heure où Mark Zuckerberg emboîte le pas de Elon Musk en abandonnant toute politique de fact-checking sur ses réseaux. Hier également, Élise Lucet a fait une petite visite à l'Assemblée nationale afin de proposer aux députés de se tester via des tests antidrogues salivaires. Cela n'a pas manqué d'indigner certains élus, certains parmi le camp présidentiel et celui du Rassemblement national, tandis que le maire de Grenoble, Éric Piolle, évoquait plus tôt dans le mois l'idée de tests anonymes devant la commission d'enquête du Sénat sur le trafic de drogue. Pour finir avec les actus de l'Assemblée, Mediapart publie sa deuxième cartouche après le démenti de François Bayrou concernant les nombreux abus signalés à l'établissement Notre-Dame de Bétharram, dont François Bayrou dit n'avoir jamais été informé, évidemment. Cet article avance de nouveaux documents attestant que le Premier ministre avait bel et bien été mis au courant, entre autres via une récente lettre lui ayant été adressée par un ancien élève de l'établissement qui relatait donc les viols subis lors de sa scolarité. L'article met également en lumière les contre-vérités du maire de Pau qui avait même organisé en 96 une visite officielle dans l'établissement, qui était alors dans l'œil du cyclone après un premier dépôt de plainte pour violence relaté dans la presse locale et nationale. Enfin, pour finir en culture, sortait hier le 7e opus de la série Civilisation, donc un porte-étendard des jeux vidéo de stratégie et de gestion. Celui-ci nous propose d'incarner des leaders allant de Charlemagne à Benjamin Franklin pour mener un peuple jusqu'à la victoire, que celle-ci soit militaire, culturelle ou technologique. Le jeu reçoit pour le moment des retours mitigés pour sa sortie, tout comme son prédécesseur qui avait ensuite bénéficié de nombreuses mises à jour pour le peaufiner. Le jeu est disponible sur PC et console.
Merci Delila pour toutes ces informations. Et c'est marrant le côté... Il y a un scandale scolaire par gouvernement Macron en ce moment, c'est assez rigolo. Et tous les ans, on a notre petite dose, c'est super. 19h41, tout de suite c'est le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et le Zoom qui est présenté ce soir par Héloïse. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir.
Et avec ton invité, on va parler musique.
Tout à fait. Alors je reçois ce soir Asfar Chamsi. Bonsoir Asfar et bienvenue.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, tu es entré dans la musique avec le hip-hop, mais tes morceaux sont empreints d'influences multiples, du rap à la pop en passant par l'électro. C'est particulièrement le cas dans ton tout nouvel EP, Le Dilemme du Hérisson, qui sort aujourd'hui. Alors le titre de ton EP fait référence à une analogie sur l'intimité humaine, Le Dilemme du Hérisson, qui a été popularisé notamment par le philosophe Arthur Schopenhauer, qui utilise donc l'image du hérisson pour décrire l'ambivalence des relations humaines. On imagine un hérisson en hiver, il a besoin des autres pour se réchauffer, mais il se blessera forcément s'il s'approche trop près de ses congénères. Dans cette EP, tu t'interroges justement beaucoup sur tes relations aux autres. Alors qu'est-ce qui t'a parlé dans cette analogie du hérisson et qui t'a donné envie d'en faire le titre de ton EP ?
Alors ce qui m'a parlé, c'est vraiment cette analogie et cette ambivalence à la fois d'avoir besoin des autres pour survivre, parce que les hérissons qui sont dans le froid, ils ont besoin de se réchauffer avec leurs congénères, sinon ils meurent. Et en même temps, quand ils se rapprochent, ils se piquent. Et donc c'est toute cette ambivalence entre on a besoin des autres et en même temps c'est les autres qui peuvent nous faire du mal. Et notamment les personnes qu'on aime le plus, et c'est toutes ces choses en fait où à la fois moi j'aimerais bien être totalement autonome et indépendante et avoir besoin de personne, et en même temps la solitude c'est un truc qui me ronge et qui me dévaste aussi si j'y suis trop confrontée. Je pense que dans l'amour, enfin on peut pas, y a la haine, on peut pas la ressentir si on n'a pas d'amour pour une personne, enfin sinon c'est de l'indifférence. Donc c'est toutes ces choses à chaque fois qui, enfin on est plein de choses contradictoires, et je trouve que c'est ça qui nous anime et qui nous rend humains aussi. Et j'aime bien cette image-là parce que je trouve qu'elle résume vraiment ce truc-là. Et moi, c'est un peu, je me sens toujours partagée entre deux choses contraires, deux tensions, quoi. dans mes liens avec les autres et puis dans plein d'autres choses aussi. Mais...
Ok, tu t'es identifié au hérisson.
Ouais, je suis vachement identifié au hérisson.
Ça marche. Tu explores dans l'EP une variété de genres, que ce soit dans les instrus, dans ton flow, dans le traitement de la voix aussi. Tu as coproduit cette EP, je précise, avec les compositeurs Loufox et Walby. Comment est-ce que vous avez décidé de la direction artistique que devait prendre le projet et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ?
Alors, comment on a décidé ? Je sais pas trop. Je crois que ça s'est fait un peu tout seul et c'est ça qui est, que je trouve cool finalement. Moi, je travaille toujours dans un premier temps seul. Je fais mes maquettes dans ma chambre, j'écris mes chansons, j'ai mes mélodies. Souvent, j'ai des grilles d'accords, mais qui sont encore assez peu structurées. Et après, j'ai des idées, j'ai des couleurs dans la tête. Et chacun arrive avec ses compétences et ses qualités. Notamment, je pense à Walby, par exemple, qui est vraiment le geek et le nerd de la musique et qui est super fort sur l'ordinateur. Et donc, je lui dis, j'entends ça et il va comprendre de quoi je parle et il va le faire. Et Loufox, qui a un peu plus de recul, qui des fois qui va nous arrêter en nous disant, vous partez trop loin et là, on comprend pas ce que vous faites. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça. Bah, je suis arrivée en disant, j'ai ça, j'aimerais bien que ça aille un peu dans cette direction-là. Des fois, il va faire ce que j'ai vraiment en tête. Des fois, il va faire totalement quelque chose de différent. Mais c'était finalement, je me dis, en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, ouais, on tâtonne, on cherche, on expérimente vachement. Et on se met pas de limite en se disant, voilà, on va faire un EP rap ou un EP électro ou un EP pop. Avant, je me mettais vachement cette contrainte-là en me disant, je voulais faire du rap et je voulais qu'on sache que je savais rapper, que j'avais la technique. Aujourd'hui, c'est plutôt trop ça qui m'intéresse. Et c'est plutôt de me dire, je fais un truc qui me parle, que j'ai envie, enfin qui va me faire plaisir sur le moment, et c'est ça qui en ressort, quoi.
Ok, donc l'EP est sorti aujourd'hui. Finalement, dans ce qu'il est, est-ce que c'est l'idée que tu t'en faisais ou comme tu dis, t'avais pas vraiment une idée précise. Donc qu'est-ce qui représente pour toi en fait cette EP ?
Cette EP, il a été fait principalement en 2023, donc il est quand même pas tout jeune. Je me fais jamais d'idée en amont de ce que je veux faire. Je fais plutôt des choses de façon assez spontané, et c'est après comme un espèce de puzzle que j'assemble, je regarde à quoi ça ressemble, et là je trouve que ça a du sens. En fait, j'ai l'impression que je suis allée, enfin je me suis vraiment émancipée de contraintes que j'avais avant, en me disant bah voilà, je veux faire tel style ou je veux faire rimer les choses de telle façon, je veux que ce soit technique, etc. Et j'ai l'impression que j'arrive un peu plus à parler de thématiques et avoir des chansons qui ont du sens. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que je serais capable aujourd'hui d'expliquer chaque chanson. C'est pas juste des trucs que je mets, enfin je fais pas de remplissage, quoi, j'espère. Et du coup, j'en suis contente, et en fait je trouve que c'est abouti. Enfin, c'est en tout cas, c'est, je pense que dans, enfin déjà aujourd'hui, je suis pas en mode c'est l'EP de ma vie et c'est incroyable, mais par contre, j'ai l'impression que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux à ce moment-là, et ça fait plaisir.
OK. Au-delà de la musique, en fait, dans l'EP, il y a une esthétique qui se dessine, qui est bien travaillée. Il y a déjà plusieurs clips qui sont sortis. J'annonce d'ores et déjà qu'il y a un clip qui va sortir demain, c'est celui du titre « Excro ». Et tous les clips ont été réalisés par une même réalisatrice, Coraline Benetti. Et à chaque fois, on retrouve une certaine cohérence dans les décors, dans les couleurs, dans les vêtements que tu portes aussi, qui sont un style vraiment affirmé, on va dire. Comment est-ce que tu t'es entourée pour imaginer et créer l'esthétique de l'EP ?
Bah, là, c'est un peu la même chose, ça naît toujours un peu dans ma chambre. Je réfléchis à un truc j'essaie d'avoir un univers global et à me dire, en fait, bah voilà, j'ai cette image du hérisson, comment je peux essayer de la décliner. Et c'est toujours ce truc aussi d'ambivalence et de contradiction, comment je peux les faire exister. Et à l'image, enfin, du coup, il y a pas mal de visualiseurs qu'on a fait, il y a que deux clips plus produits, mais il y a pas mal de visualiseurs et dedans, j'essaye d'avoir un truc assez enfantin dans le décor. Il y a pas mal d'objets en papier mâché. Et à côté, un truc plus froid dans les vêtements. Enfin, il y a une veste, notamment, dans les vêtements avec des pics de hérisson. Ouais. Et donc, essayer de jouer toujours avec cette espèce de contraste. Et donc, je pense les trucs dans un premier temps dans ma chambre. Je fais des petits croquis. Et après, je vais voir Coraline, qui est la réale. Et elle m'aide à rendre ça un peu plus réaliste et faisable, puisqu'il y a plein de contraintes que je n'imagine pas à moi seule. Pour les vêtements, donc il y a deux tenues. Pareil, il y en a une qui est très colorée, avec des ballons, avec des formes assez arrondies, enfantines, et l'autre avec des pics, qui est noire. Et encore une fois, c'était cette idée de contraste. Et là, je me suis rapprochée de quelqu'un qui s'appelle Seki, qui est couturier et qui a vraiment des bonnes idées. Et en fait, ouais, j'arrive avec un espèce de concept global, et après, chacun apporte sa patte avec son expérience, son regard, son expertise, puisque la couture, par exemple, c'est très différent de ce que je fais moi. Et ça nécessite des skills que je n'ai pas, quoi. Donc, okay. Voilà.
Ok, ouais, la veste est vraiment super. Enfin, je recommande à tout le monde d'aller voir et les clips et bien sûr écouter l'album. Vous allez voir, c'est hyper bien réussi. Et comme tu dis, on sent bien en fait cette ambivalence et c'est hyper intéressant. Ça se retrouve dans tous les pans de l'album. Tu as été lauréate du FAIR en 2024. Alors le FAIR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif de soutien aux artistes émergents en musique actuelle. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton projet ?
Ça a été, je pense, ça a été vraiment un moment très important pour moi parce que la première chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a fait quitter mon travail. Puisqu'avant ça, je travaillais. Et le FAIR, c'est un programme qui est assez prenant, qui est assez intense sur 6 mois. Et donc, il faut être disponible. Et du coup, j'ai dû quitter mon travail et me lancer à plein temps dans la musique. Et ça a été assez important, en fait. C'est assez structurant de se dire, bah voilà, maintenant, je peux dire que je suis artiste. C'est un truc que c'est assez difficile de sentir légitime là-dedans, surtout quand on n'en vit pas. Mais en fait, ça m'a permis ça et de me dire, bah, je m'affirme et je fais le truc à fond et j'ai pas de honte ou de complexe à le faire. Et après, à côté de ça, c'est moi, j'ai la volonté d'avoir un parcours assez indépendant et de me développer avec mes moyens, avec mon équipe. Justement, je travaille pas avec beaucoup de personnes, mais je choisis vraiment les personnes avec qui je travaille et j'ai envie qu'on avance ensemble. Et en fait, le FAIR, ça apporte de la structuration, ça apporte des outils pour décoder l'industrie musicale. Et ça nous donne, voilà, cette capacité à être autonome et à mettre en place notre vision. Et ouais, ça a été très, très important, en fait, dans mon parcours ces derniers mois, ces dernières années même.
Une autre étape importante dans ton parcours, il y a une date qui est annoncée à la Boule Noire, le 14 mai. C'est ta première date solo, il me semble.
C'est ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette date, et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ?
Alors, à quoi on peut s'attendre, je ne sais pas encore, parce que moi, donc, je vais me poser dessus, et je pense que je vais essayer de faire un truc un peu unique, mais je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Et qu'est-ce que ça représente ? Bah, c'est quelque chose quand même, en fait. Déjà, ça fait peur de se dire, est-ce qu'il y aura des gens, et en fait on a mis en vente il n'y a pas longtemps, et en fait oui, il y a des gens, et ça fait trop plaisir de savoir que ça se concrétise quelque part, parce que bah, les réseaux aujourd'hui, pour moi, ça veut pas, enfin il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de stats, mais c'est pas palpable et je fais pas de la musique pour ça. Et ouais, du coup, c'est de se dire, bah, en fait, je vais être avec des gens qui écoutent mes musiques, qui connaissent mes chansons. Je connais pas, enfin je découvre mon public sur les premières parties, des choses comme ça, mais j'ai jamais fait de date où les gens viennent me voir, et c'est... Enfin, je pense que ça va vraiment être un moment de communion. Enfin, je le vois un peu comme ça. Et bah voilà, moi, je suis super contente de faire cette date-là. Et je pense que ça représentera quelque chose encore plus après, une fois qu'on l'aura passé.
Voilà. Génial. Bah, à bon entendeur, du coup, n'hésitez pas à aller prendre vos places pour le 14 mai à la Boule Noire.
Et d'ici là, pour patienter, on peut écouter l'EP, du coup. Et demain, il y a le clip, hein, on rappelle, d'Escroc qui sera dispo partout, j'imagine, sur YouTube, comme tout le monde, finalement.
Ouais. Enfin, ça fait, comme les jeunes.
Exactement, les fameux, on en a beaucoup parlé. Merci beaucoup d'avoir été au micro de Radio Campus Paris.
Merci à vous.
Et merci beaucoup, Héloïse, à l'animation de ce Zoom. Merci. 19h51, on va se quitter dans un instant, mais d'abord, on va quand même écouter un de tes morceaux. Et ce morceau, c'est « Le monde est noir ».
Je sais rien faire avec mes 10 doigts. Tu m'aimes, je te mérite pas. Bien sûr, l'avenir, il est délicat. La drogue, elle est médicale. Qui nous répond quand on priera ? De la douleur sur les visages. L'amour est mort dans un virage. Et moi, j'ai brûlé mon âme dans un virage. Pourquoi je sens plus rien ? Pourquoi j'en fume un, si ça me fait plus rien ? Tous les jours, tu tiens. Mais à quoi ça sert ? Je voulais juste épargner ma mère. Est-ce que j'ai réussi ? Je sais pas. Je suis personne. J'arrive à rien sans personne. J'suis personne, j'arrive à rien sans personne. Fuck, le monde est noir et moi, j'suis seul, démon se moque de moi. Hey, oh, j'suis personne, j'arrive à rien sans personne. Fuck, le monde est noir et moi, j'suis seul, démon se moque de moi. Fumer du shit toute sa vie, c'est pas un vrai projet d'avenir. Je sais que ça va rien rétablir, que l'équilibre il est fragile. Je sais qu'on s'inquiète pour la suite, je sais pas si je prendrai les paris. J'aimais les mathématiques, mais sécher les cours c'est facile. J'ai pas fait les bons choix, je soulève des montagnes, personne m'accompagne. Si personne m'accompagne, je vais où ? En vrai, je me condamne, j'ai perdu le contact, je ne réponds pas, j'étouffe mes doutes, c'est tout. J'suis personne, j'arrive à rien sans personne. Fuck.
Et c'était Asvar Shamsi, qu'on remercie une nouvelle fois d'avoir été au micro de la matinale de 19h. C'était Le Monde est à nous. Le Monde est à nous, c'est un autre truc. Le Monde est noir sans personne, pardon, je suis myope et du coup j'interprète des choses différentes. Merci à elle d'avoir été avec nous. L'émission est bientôt terminée, mais d'abord nous avons évidemment la chronique. J'ai enfin trouvé des gens pour faire une chronique dans l'émission. Alors ils ont rien écrit, donc ça va être une chronique en cadavre exquis avec Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Mais bonsoir les loulous.
Bonsoir. Gauthier.
Bonsoir.
Et rebonsoir Delila qui nous a délivré le flash info tout à l'heure. Alors je vais vous faire un début de phrase et puis on continue quoi. C'est l'histoire d'un
rocker
qui un jour en sortant d'un concert
renversa sa bière.
Ce n'était pas Johnny Hallyday.
Ce n'était pas non plus Mireille Dumas.
Et non, car les deux sont décédés.
C'était en revanche Xavier Dupont de Ligonnès.
Qui avait monté un groupe quand il était au lycée.
Soudain,
tout explose.
Ah.
Tout explose, sauf une chose.
La bière qu'il avait renversée.
Et oui, car en effet, la bière n'est pas un matériau de nature à exploser.
C'est de l'alcool.
Et de l'eau, un peu. Selon certains.
Contrairement à la bombe atomique.
Comme quoi, on en apprend tous les jours.
Grâce à Johnny Hallyday.
Merci, c'était la chronique en cadavre exquis de la matinale de 19h. C'est toujours un plaisir, merci beaucoup. J'en garde deux. Enfin, Delila, si tu veux rester dans le public, évidemment, tu restes avec nous.
C'est quoi, cool,
j'en garde deux parce qu'on a le monde zygomatique dans un instant avec Maxime qui va entrer. Vas-y, Maxime, viens faire la passerelle. De toute façon, c'est la quatrième dimension cette émission. Hein, voilà, n'hésite pas. Mm-hmm. Ça, c'est un micro, hein, donc okay, vas-y. Hein. On n'a pas que ça à faire non plus, Maxime. Hein, donc
oui,
n'hésite
bonsoir,
pas.
Oui. Bonsoir, Simon, Maxime. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ah, ça va très bien.
Il pleut, hein?
Bah non, il pleut pas. Je sais plus comment s'habiller. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Hein.
Ouais, c'est terrible. Quelle heure il est? C'est bon. C'est pas affiché, alors.
Oui, oui. Non, il est 19h57.
19h. Et oui, donc c'est le monde zygomatique qui va commencer.
Et on a une non-invitée.
Ouais, exactement.
On qui a un invité.
C'est Rachida Dati
qui est la non invitée pour nous parler de censure.
C'est vrai.
C'est
vrai qu'on va parler de ça. Oui. Quand tu connais les choses vraies, tu les écris pas, mais tu les
connais.
L'autre. Non, mais on donne les coulisses comme ça. Mais on en parlera dans l'émission.
Bien sûr.
Juste après. Merci beaucoup, Maxime. À tout de suite. Et à tout de suite à moi-même aussi.
À tout de suite. Parce que c'est toi qui présente.
C'est la fin de cette. Exactement. C'est la fin de cette matinale.
Mais il y aura pas que toi aussi. Il y aura bien sûr Sébastien.
Il y a Gabriel qui revient pour la deuxième fois de l'année. Oui, exactement. Oui, il y a.
J'ai jamais vu une passerelle aussi longue, perso.
Pardon ?
Une passerelle aussi longue, c'est du jamais vu.
Oh bah, il y a...
C'est le Golden Gate Bridge.
Excellent.
Évidemment. C'est l'heure de remercier quand même...
Il y a Sofiane aussi qui sera là.
Oui, il y a Sofiane aussi qui sera là. Oui. C'est très long, Maxime. A tout de suite pour le monde zygomatique. Et d'abord, on remercie les personnes qui auront participé à cette matinale de 19h. Merci à mon homonyme, sinon Simon à la réalisation. Merci à Héloïse à la présentation du Zoom. Delila au Flash Info et à la chronique en cadavre exquis. Ça nous aura beaucoup aidé. Maïwenn à la coordination de cette matinale de 19h. Sébastien aussi et Gauthier à la chronique improvisée. Et bien sûr, aux personnes qui n'auront pas fait de chronique ce soir, très écrite. On retrouve l'émission en podcast. Voilà, radiocampusparis.org, les plateformes. Rediffusion demain à 13h sur le DAB+ en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y avait des crêpes hier soir. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire sur cette émission. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle revient aussi demain. Et ça nous ira bien. Ça rime. Bonsoir.